Qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs votre grand-père? Il avait une très jolie petite phrase.
Il disait, mais vous savez, celui qui plante une épine, il ne peut pas récolter de pommes. Lui, c'est pareil, à 80 ans, il replantait encore des arbres. C'est ça la vraie paysannerie. Vous voyez. On sait très bien que ce n'est pas lui qui va cueillir les prunes ou les pommes ou les poires. À 80 ans, un vrai paysan plante encore un arbre pour les générations qui suivent. Déjà, notre génération à nous, des années 50-60, on a quand même eu l'héritage de leur travail à eux de 50 ans après la guerre. Quoi. Tandis qu'eux, on leur a tout détruit. C'est incroyable. Et ils ont gardé cet espoir-là, cette force de la vie. Quoi. C'est le contraire de notre société maintenant. Maintenant, on veut avoir du profit avant d'avoir travaillé.
Cet homme tout à fait formidable qui s'appelle Noël Janteur, eh bien vous allez l'écouter au cours de cette émission parce que c'est principalement le sujet que j'ai tourné du côté de Craonne, même franchement à Craonne, donc dans ce très beau département de l'Aisne, sur le chemin des Dames. Et cet homme-là est aujourd'hui agriculteur bio, donc on va le découvrir, voir comment il vit aujourd'hui cette terre, donc qui a été évidemment une terre de douleur, et puis aujourd'hui son travail d'agriculteur. Je vous souhaite la bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, donc sur France Inter, c'est Au de mon amour, avec Sandrine Laurent et Jean-Philippe Jeanne à la technique, et assisté de Jérôme Boulet, c'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Et on va débuter par une petite humeur, et je n'oublierai pas mon ami aussi, Albert Hook. En matière de supplice infligé aux animaux, la corrida passait jusqu'alors pour indépassable. Mais on ignorait que le taureau, lâché dans la voie sans issue de la reine, pouvait être avantageusement remplacé par le ragondin. Oui, jeté puis écrabouillé dans la cour des préfectures. Alors certes, le ragondin bousille, ravage les berges des rivières à qui mieux mieux, on est bien d'accord, aussi sûrement qu'un assouplissement étatique en faveur des nitrates. Mais à la faveur d'une manifestation d'agriculteurs organisée cette semaine à Nantes, on a pu voir, on l'a très bien vu sur le net aussi, combien la FNSEA pouvait avoir une approche pour le moins originale de la défense de la biodiversité. Les ragondins qui étaient du voyage, tout d'abord tagués à la peinture rouge, comme un mur de banlieue, puis transformés en galettes complètes sous les roues d'un tracteur dernier cri, subventionné par la PAC, n'en sont pas revenus. Alors les citadins ayant assisté à la scène non plus, mais qu'est-ce que vous voulez, hein ? Un citadin, c'est émotif. Alors c'était quoi ? C'était un joli mélange, on va dire, de purin, de paille, de chair sanguinolente, une nature morte, très très morte, d'ailleurs, un truc qu'on aurait pu voir exposé à la FIAC, pourquoi pas. Et heureusement que l'exploitant agricole, lui, a le sens des réalités et qu'il sait bien qu'un ministre de l'Environnement, ça se range avec les ragondins dans le même grand sac des nuisibles. Eh bah oui, du reste, qu'est-ce qui n'est pas nuisible parfois aux yeux de la FNSEA? Alors, puisque les temps sont à l'humour agricole, on peut peut-être revoir un peu cet acronyme. Hein, moi, je ne sais pas, pour lui trouver une signification en écho avec l'actualité, on pourrait dire FNSEA, follement, nocif et sadique envers les animaux. Je sais bien, je suis certain que beaucoup d'adhérents de cette fédération agricole ne cautionnent absolument pas donc les actes de cruauté de leurs collègues. On va éviter tout de suite les amalgames dans cette émission. De même qu'on ne peut pas soutenir non plus la casse de contestataires extrême tout, dit écologistes, que ce soit à Nantes, à Sivens ou à Toulouse. Et on espère, ce sera calme d'ailleurs aujourd'hui à Toulouse, et qui engendre des confusions faciles qu'un Rémi Fraisse n'aurait jamais cautionné. On va regarder plutôt aussi le Doubs à notre porte, parce que c'est la véritable entrée de l'automne, des odeurs villageoises, des premières flambées, odeur de lisier léger qui est mêlée, vous savez, à celle des grumes de sapin, en lisière de la très belle forêt de la Joue dans le Jura. Une biche et ses deux petits qui traversent la route, comme ça, à 20 mètres de vous, des villages qui sont resserrés, qui attendent la première claque de l'hiver. Bah oui, l'automne déclare sa flamme rousse à la vie, ça y est, nous y sommes. Et plus bas dans la plaine, vous avez aussi le bal automnal, des bleus et jaunes, des mésanges qui est ouvert. Elle zinzinule, oui, la mésange zinzinule. Elle marque son territoire en virevoltant du figuier au sureau, de la vigne vierge au tas de fumier de cheval. Aucun autre volatile n'est invité, non. Les cartons d'invitation ont été distribués aux adolescents de l'été. Et les générations ailées et zélées se poursuivent dans un bal au tempo vif et coloré. Et pendant ce temps-là, on voit aussi une rose qui est en pleine forme, qui a sûrement lu Regain de Giono. Bienvenue aux châtaignes grillées et à l'automne, et à vous tous. « C'est Aude mon amour donc sur France Inter et donc vous l'avez compris, on va aller sur le chemin des dames. Mais auparavant, eh bien, c'est tout à fait le moment parce que j'ai entre les mains donc un ouvrage qui s'appelle Plantes de poilus aux éditions Plumes de Carotte. Et alors bien sûr, on va trouver le tabac, la vigne, le café, mais aussi d'autres plantes. Donc je vais me tourner vers vous, Denis Richard, parce que vous êtes pharmacien. Vous êtes pharmacien d'ailleurs au CHU de Poitiers et donc vous avez écrit cet ouvrage. Bonjour Denis Richard.
Bonjour Denis Chessou.
Alors Denis Richard, avec cet ouvrage, on découvre ces plantes, souvent des plantes messicoles. Pourquoi on disait que le coquelicot était en fait une fleur des batailles ?
On a dit effectivement que le coquelicot poussait sur les champs de bataille, mais en fait, lorsque l'on se penche un petit peu sur l'histoire, on s'aperçoit que cette tradition du coquelicot ensanglantant en quelque sorte ces champs de bataille doit beaucoup à la faconde de Victor Hugo. En fait, les témoignages anciens sont quand même assez réduits. Il faut attendre la Première Guerre mondiale, précisément, pour concrètement voir des profusions de coquelicots sur les champs de bataille.
Et parce que ce sont des plantes qui aiment être retournées lorsque le terrain est...
Exactement, exactement. Elles abondent dans la terre retournée. Et là, elles étaient évidemment dans ce chaos qu'induisaient les tirs d'artillerie. Puis aussi, c'est une plante qui aime relativement les sols calcaires. Donc deux excellentes raisons, et puis en plus évidemment tout cela a été mis en exergue par sa couleur qui n'était pas sans rappeler celle du sang des soldats bien sûr.
Et en ce qui concerne le bleuet, on parle très souvent du bleuet et du coquelicot. D'abord on sait très bien que lorsque un champ n'a pas de pesticides, eh bien ce sont des plantes que l'on voit tout à fait régulièrement. Mais donc le rapport avec les poilus ?
Eh bien le rapport là est tout autre puisqu'il tient directement à la coloration de l'uniforme des poilus. Les petits bleus, comme on les a appelés à partir de 1915.
Malheureusement, avec les pantalons Garance, parce qu'ils se faisaient tirer comme des lapins avec ça.
Exactement, exactement. Donc l'uniforme a changé de couleur. Il y a eu l'appellation des petits bleus, les bleuets. Et ceci est resté et constitue désormais le symbole, l'emblème des morts de la guerre en France.
Qu'est-ce qu'il y a comme autre plante, on va dire, de poilus qui sont peut-être un peu moins connues ?
Eh bien, pour les terneviens, il y a le myosotis. Avec la symbolique, effectivement, ne m'oubliez pas. Et puis, de façon un petit peu décalée, peut-être, il y a des plantes imaginaires qui ont été prises comme symbole. Par exemple, le coquelicot violet, dans les pays anglo-saxons, en mémoire des innombrables animaux qui sont morts pendant les combats.
Et comment ça se fait ? Quel rapport entre le coquelicot violet et puis les animaux ?
Eh bien, tout simplement, le coquelicot rouge, symbole des soldats morts, qui a été récupéré et détourné sous forme d'un coquelicot violet, le purple poppy, qui a été donc mis en exergue au Royaume-Uni. On peut aussi noter, l'ouvrage ne l'évoque pas, mais qu'il existe un symbole, un coquelicot blanc, qui est le symbole de la paix.
Denis Richard, qu'est-ce qui vous a le plus ému lorsque vous avez travaillé sur ces plantes de poilus ?
Bien, les herbiers, bien sûr, parce que non seulement il existe de nombreux herbiers constitués spécifiquement par les poilus, mais aussi beaucoup, beaucoup de fleurs sèches, des coquelicots par exemple, qui ont été adressées aux familles, aux proches, aux amis, dans les courriers que l'on retrouve, parfois même très longtemps, que l'on redécouvre par hasard dans des lettres que l'on sort des greniers à l'heure actuelle. Certains sont vendus aux enchères d'ailleurs, et c'est quelque chose d'effectivement très, très émouvant que retrouver ces plantes qui sont à la fois si proches et puis aussi si lointaines dans le temps.
Et puis il y a aussi donc une autre raison pour laquelle les coquelicots et les bleuets poussaient bien. Certes, la terre était retournée, donc ces plantes-là adorent ça, mais il y avait aussi la pourriture des corps et celui de l'azote, des explosifs, du salpêtre. Et donc tout ça, ça faisait en fait un double engrais, on va dire, supplémentaire. Donc je vous renvoie, Denis Richard, donc, à cet ouvrage, hein, bien sûr. Plantes de poilus aux éditions Plumes de Carotte. Et avant d'aller sur le chemin des dames, on va découvrir, grâce à Thierry Dupin, donc, ce nouvel album, un extrait de Hubert Félix Thiéphen, Angélus.
Je te salue, Seigneur, du fond de l'inutile, à travers la tendresse de mes cauchemars d'enfant, le calme des espoirs, de mon bonheur tranquille, et la sérénité de mon joyeux néant. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Pendant que mes les anciens amis font tomber leur sentence. Les citoyens frigides tremblent dans leur cervelle quand les clochards lucides retournent à leur poubelle. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Je te salue, Seigneur, fond de tes abîmes, de tes clochers trompeurs, de tes églises vides. Je suis ton cœur blessé, le fruit de ta déprime. Je suis ton assassin, je suis ton déicide. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Je m'en vais ce soir. Oui, je m'en vais ce soir.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Voilà, et donc avec Hubert Félix Yeffen, qui en fait, lorsque j'avais posé la question, pourquoi vous écrivez pas sur la nature, il me dit, j'ai besoin de nature, mais j'arrive pas à écrire sur la nature. Lui aussi dans la forêt de Chaux, dans le Jura. Là, nous partons dans le département de l'Aisne.
Moi, je suis né à la ferme, à Crane, là. Ah. Oui, une des maisons de la ferme, et puis papa, il est né dans l'autre maison, juste à côté. Puis grand-père, lui, il est né dans le vieux village, hein. Donc ça fait, oui, une douzaine de générations, 12-13 générations qu'on est paysans ici, puis on est ici.
Et qu'on est des hommes de la craie, quoi.
Oui, oui, si on peut dire, de la craie, du sable, de la terre, en tout cas. Ouais. Mon grand-père, lui, il était plutôt axé sur la forêt, sur le bois, sur... Mon père, c'est plutôt, la terre, la chasse, les saisons, par exemple, il adorait tout ce qui était... Des fruits bizarres, quoi, les châtaignes, les noix, les noisettes. Il était plus sensible à l'automne, quoi, aux fruits d'automne.
D'accord.
Et moi, je suis plus sensible aux fruits d'été, aux fruits de printemps. C'est le printemps, c'est le renouveau. Puis, je suis peut-être plus, un peu comme mon grand-père, plus près sentimentalement de ce que sentait mon grand-père aussi, de la terre, des légumes, du travail à la main, d'être penché, quoi. D'être penché, d'être de la sentir.
Je vous emmène sur le chemin des dames, ce chemin des dames qui sépare la vallée de l'Aisne et de l'Ailette. Oui, on est dans ce très beau département de l'Aisne. Alors, qui étaient ces dames? C'étaient les filles de Louis XV qui empruntaient ce chemin pour se rendre au château de la Beauve. Mais c'est vrai que l'histoire retiendra autre chose, retiendra le massacre des troupes françaises. En avril 1917, entre autres, sous les ordres fous et entêtés de l'état-major, dirigé par le général Nivelle. Donc c'était la mauvaise décision de trop. Et aujourd'hui, on est dans le vallon de Bonneval. Bonneval, c'est la bonne vallée où le silence et la paix se sont installés. Si vous voulez, c'est un vallon qui mousse de rayons avec plein de trous rouges sur le côté, plein de trous rouges dans la mémoire humaine. Et sur les corps digérés par la terre depuis longtemps, Noël Janteur, donc, qui est le maire de Craonne, à peu près 80 habitants, cet homme-là fait pousser de la vie. Il fait du bio, comme une pommade douce, comme un baume sur la terre qui a bu le sang des hommes, qui s'est nourri de fer, d'obus, de chair. Et alors, comment vivre aujourd'hui, cultiver avec ça, avec cette histoire? Alors, dans un premier temps, Noël Janteur va nous parler de son métier. Et puis, on glissera doucement, comme ça, dans l'histoire, la nature. Donc, portrait sensible de cet homme et de ce bout de chemin des dames, raconté non pas par un historien, mais par un agriculteur. On est donc à la croisée des paysages, de l'histoire et de l'environnement.
C'est comme si c'était mon gamin. Puis j'ai 4 fois sur mes genoux. Je crois bien que c'est la première engueulade que j'ai prise, c'est quand je l'ai laissé. Je devrais pas le dire. Il avait quoi? T'avais quel âge, Titi? 10 ans, 11 ans? Et je l'ai laissé déchaumer à 10 ans avec un 4 roues motrices, mais où le 28, je sais pas. Et cover crop et tout. Donc pourtant, nous ici, c'est en pente.
Ah, d'accord.
Je l'ai laissé tout seul, je savais qu'il allait se débrouiller. D'ailleurs, pour débrayer, il fallait qu'il se mette en bille, vous savez, il était trop petit. Puis pour traîner, il se mettait dans le sang. J'ai dit, tiens, Titi, j'ai fait confiance. Faut faire confiance aux jeunes de bonne heure.
Ouais.
Après, ils prennent leurs responsabilités.
Et alors maintenant, donc, ils sont deux à faire du bio.
Avec ouais, vous deux ici. Avec moi, oui, oui. Oui, c'est...
D'accord.
Alors, je crois que c'est une passion, c'est des belles passions, des passions qu'on partage, quoi. Ouais. C'est... Faut pas que ça vienne à un vice non plus. On reste ouvert sur les autres, on reste ouvert sur la société. On essaie de comprendre ceux qui ne comprennent pas le bio, quoi. C'est à nous à faire l'effort. Hein. On est la population la plus faible, en fin de compte. Là.
C'est ça.
Donc c'est à nous à faire l'effort d'expliquer, de comprendre, d'être patient, de prouver qu'on a quelque part, qu'on n'a pas tort. Je dis pas qu'on a raison. Je dis prouver qu'on n'a pas tort de faire ça.
C'est ça.
C'est pas pareil. C'est moins agressif. Faut toujours être dans la douceur, je crois. Par rapport à la population, par rapport aux autres, par rapport à nos confrères, quoi, qui ne sont pas encore...
Qui ne sont pas convaincus,
je ne sais pas d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils sont... C'est que ça demande un effort quand même. Hein, on prend des risques. Hein,
oui, on prend des risques. Hein, j'ai un copain dans le bio, il me disait, tu vois, à chaque fois, à chaque saison, en fait, on met le portefeuille sur la table. Hein, parce que c'est pas,
voilà,
c'est pas simple.
Voilà. On se met en cause tout le temps.
Ah ouais.
On n'a pas la sécurité qu'on avait, que les gens ont quand ils font du traditionnel. Ouais, je ne l'appellerais même pas chimique, je l'appellerais du traditionnel. Même parce qu'il y a quand même des gens raisonnables, il y a des gens raisonnés.
Oui.
D'abord, on appelle l'agriculture raisonnée, c'est pas pour rien.
C'est venu comment, vous, Noël, en fait?
Moi, depuis le temps que je suis rentré, depuis l'âge de. Depuis le temps que j'ai repris la ferme, j'ai fait déjà tout ce qui était partie élevage, je l'ai déjà fait en extensive dès le début. Enfin, j'avais fait une partie intensive. Puis je me suis rendu compte que je ne gagnais pas plus, même moins. Et puis que je prenais des risques énormes tous les ans, que j'affaiblissais mon troupeau. Donc, et j'ai fait une erreur là. Vous voyez, c'est les erreurs qui vous apprennent en fin de compte. C'est les erreurs qui sont plus enseignantes que les réussites. Parce que moi, j'ai eu l'expérience avec mon troupeau de vaches lait. J'avais un troupeau de vaches laitières, une quarantaine de bêtes, qui avait une capacité, disons, aller entre 7 et 8 000 litres de lait.
Mmh.
Quand je me suis rendu compte que mes revenus de l'élevage laitier couvraient à peine l'alimentation, tout ce qui était sanitaire, tout ce qui était l'entretien des machines, je me suis dit, il y a un problème, quoi. Donc tout de suite, je me suis dit, bon, ça va pas, c'est parce qu'on force la nature, et puis une année, c'était bien, une année, c'était pas bien, quoi. Bon. Donc j'ai voulu trop vite revenir à un extensif avec une génétique qui n'était pas capable de supporter l'extensif. Vous voyez, c'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que j'ai rendu mes bêtes plus ou moins malades parce que j'ai réduit tout de suite la nourriture. Donc je les ai rendues malades, hein, les bêtes. Ça, c'est comme un grand sportif.
Oui, quand il est super entraîné.
Super entraîné, puis du jour au lendemain, on dit il s'arrête, et bien il grossit. Pareil, il suffit de voir les grands champions. Hein.
Oui,
il suffit des grands champions, que ce soit dans le cyclisme, dans le rugby, dans le foot, ou les grands champions qui n'ont plus leur activité physique de grands champions, ben, tout de suite, en 3-4 ans, ils changent de morphologie. Et puis il y en a certains qui sont malades d'ailleurs. Et donc, moi, c'est ce qui s'est passé avec mon élevage laitier. L'élevage n'a pas supporté de revenir dans une condition plus naturelle. Quoi.
D'accord.
Donc, j'étais fragilisé par rapport aux températures, par rapport au climat, par rapport à tout ça. Voilà. Et donc là, j'ai compris, j'ai fait un petit peu machine arrière, j'y suis allé progressivement après.
Bon. Ouais,
moi, mon grand-père me disait, par un moment, au moment de l'accueil des haricots, des fraises, des asperges, il y avait entre 300 et 400 personnes qui travaillaient sur ce terroir-là, vous voyez. Maintenant, on est 4. Vous voyez l'évolution de la vie en un siècle, quoi. Là, c'est à l'image du monde rural. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a de moins en moins de, comment dire, notre place dans la société, et de façon sur le plan de la démographie, on ne représente plus rien, quoi.
Mais attendez, excusez-moi, parce que là, je vais tomber dans des chiffres, alors que au contraire, c'est de l'humain qu'il faut mettre en avant, mais vous représentez, enfin, tout le monde agricole, c'est quand même 52% du territoire qui est géré, avec ce mot-là, qui est vraiment employé à toutes les sauces, oui. Mais par le monde agricole, par les paysans, par les agriculteurs. C'est pas rien.
Oui,
quoi.
Oui. Oui, non, c'est pas rien, mais si vous voulez, on a. Avec l'évolution des sociétés et de la culture urbaine et puis surtout les cultures qui se généralisent aussi, oui. Hein, qui ne respectent plus les différences, quoi, je dirais. Maintenant, c'est ça le drame de nos sociétés, c'est qu'on...
Ben, c'est l'uniformisation.
Voilà, l'uniformisation à outrance.
Et le mimétisme, comme d'habitude.
Voilà. Le problème, c'est que, en fin de compte, c'est un peu comme tout à l'heure ce qu'on parlait de l'agriculture, entre la différence entre l'agriculture biologique et l'agriculture traditionnelle, enfin, ou même raisonnée, c'est que la valeur de la vie, c'est plus ça. Le progrès qui devait faciliter la relation entre les hommes, la relation avec la vie d'ailleurs, hein, assumer jour après jour sa vie, je pense qu'on l'a complètement perturbé par la technologie. Mais ça veut dire peut-être que dans l'ensemble des sociétés, qui est une société de consommation où on trouve tout partout, vous voyez, bon ou pas bon, ça c'est autre chose, mais on trouve tout partout.
Et on crée de la frustration aussi.
En même temps, on crée beaucoup de frustration pour ceux qui ne peuvent pas y accéder déjà. Et puis de la misère. Si vous voulez, on ne voit plus le lien qu'on a avec son sol. C'est-à-dire que combien. Moi, j'ai eu une fois l'expérience de jeunes filles qui avaient 16-17 ans, des classes que je recevais, et lorsque j'avais des vaches à lait. Et donc, je les ai invités par petits groupes à venir traire avec moi. Et bon, j'étais bien équipé à l'époque, donc c'était relativement facile. Donc, je leur ai demandé de préparer, par exemple, la vache avant de traire, nettoyer les pies, tirer les premiers jets. Enfin, vous connaissez, mais tout le monde ne connaît pas. Mais on avait un devoir de produire des bonnes qualités. Et je me souviens d'une jeune fille, je ne sais plus d'où elle venait, de la région parisienne, qui me dit, mais à 17-18 ans, vous vous rendez compte? Elle me dit, ah, mais le lait est chaud.
Eh oui.
Vous vous rendez compte? Mais... Oui. Vous voyez, non, mais c'est, tout ça, c'est une philosophie de la vie qui fait que, malheureusement, les écarts se creusent entre ceux qui ont encore cette connaissance-là, ou ce lien-là, ou cette chance-là, et ceux qui ne l'ont plus, parce que ce sont des victimes, quelque part.
Parce que ce que nous disait Pierre Rabhi, c'est que on ne vit pas hors sol, quoi.
Voilà,
c'est...
on nous a fait croire, mais je ne sais pas, on a un certain âge. Moi, je me souviens, dans les années 80, 75, 80, 85... on nous disait, vous verrez en l'an 2000, vous vous nourrirez avec des pilules, quoi.
Oui, non, ça n'a jamais marché.
Ça n'a jamais marché. Et puis on est revenu à, aussi, heureusement, à un désir d'avoir des bons produits, d'avoir des produits sains, des produits qui ont du goût, des produits de saison. Et vous avez toute une frange de la société qui ne sont pas forcément les plus aisés, qui retrouvent cette forme d'harmonie-là par le goût, par l'assiette. Si vous voulez, il ne faut pas non plus... refuser ce qui a existé. Que le balancier aille d'un côté ou aille de l'autre, il est dangereux de deux façons.
Bien sûr.
Donc il faut ceux qui ont, que je pense moi en tout cas, qui ont raison de revenir à une gestion saine et, naturelle, ça ne veut rien dire, une gestion plus que raisonnée de la nature, il ne faut pas non plus qu'ils passent dans un excès aussi. Il y a un excès qui les rendrait agressifs ou qui les rendrait de façon... presque une idéologie extrémiste, si vous voulez. Donc je crois qu'il y a...
L'ayatollah vert existe aussi.
Voilà, il ne faut pas qu'on fasse comme la chimie, par exemple. Vous voyez, le problème de cet excès de pollution des sols, de problèmes qu'on a actuellement à régler, vient du fait que du stade du laboratoire au stade d'utilisation à grande échelle, il n'y a pas eu d'intermédiaire pratiquement.
Non, c'est-à-dire que vos champs sont devenus une paillasse de laboratoire.
Voilà. C'est les champs qui sont devenus des laboratoires. Et ben, dans l'autre sens, il ne faut pas faire la même chose. Ouais. Il faudrait qu'il y ait des sas comme ça dans le temps et dans l'espace qui fassent qu'on passe progressivement, on revienne progressivement. Non, qu'on ne revienne pas. Qu'on passe à une nouvelle façon de gérer notre sol, mais qui ne soit pas brutal. Parce que ça va être dramatique, parce que c'est l'homme qui va encore payer. Ouais. Tout ce qui se fait brutalement, c'est l'homme qui se paye. Paye. Donc il faudrait que ce soit qu'il y ait des gens raisonnables et raisonnés qui ne soient pas extrémistes, quoi. Vous voyez, les extrémistes sont mauvais dans tous les domaines.
Quand au bout de 8 jours, repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre vie est bien utile, car sans nous on prend la vie.
Oui, mais maintenant on est fatigué, les hommes ne peuvent plus marcher. Et le cœur bien gros avec des sanglots, on dit adieu au sifflot. Et même sans tambour et même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on va laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés.
Alors Noël Janteur, là on est chez vous, on est en train de vous parler effectivement de douceur avec, pour expliquer les choses aux gens. Et on est quand même sur ce lieu en train de grimper sur le plateau de Craon, parce qu'on est donc chez vous, avec donc ces merveilleux pommiers bio. Alors, on a aussi des haricots, on a du maïs. Et en même temps, eh ben, c'est vrai que ce lieu quand même interpelle. On le sait, on sait qu'il y a eu des massacres absolument effroyables. Donc en avril 1917, on a eu 96 000 Français qui, en espace de 10 jours, ont été tués, blessés, massacrés. Aujourd'hui, c'est quoi ce plateau? Lorsque l'on est, comme vous, agriculteur, quand on est maraîcher, on a un peu ce souvenir. Comment on fait avec ça, sur ce plateau crieux?
Ben, là, vous mettez le doigt sur un sentiment qui est né chez moi lentement, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure d'une forme d'harmonie que j'ai eue avec ce territoire-là, ce terroir-là, on pourrait dire. C'est, en fin de compte, c'est un héritage qui est difficile à supporter ou qui est difficile à vivre, ou à garder en tout cas, ou à faire vivre plutôt, parce que c'est un dilemme dans cet héritage-là. Mmh. Autant il est triste, autant en même temps il vous amène des satisfactions. Donc on oscille tout le temps entre une forme de mélancolie. On est dans les mélancolies en permanence, soit une mélancolie heureuse, soit une mélancolie triste, en permanence, vous voyez. Par exemple, moi, si vous voulez, à chaque fois que je travaillais mes terres, je travaillais là-bas, parce que toute l'exploitation est dans le No Man's Land. Donc le No Man's Land, c'est l'endroit où, en fin de compte, c'est là où il y a le plus de corps, quoi. Ouais, là, c'est le drame se passe dans le No Man's Land. C'est quand les soldats, les uns ou les autres, hein, d'un côté ou de l'autre, voulaient traverser le No Man's Land pour conquérir le terrain qui était en face d'eux, c'est là où ils recevaient le carnage des obus. Enfin, la douleur était là. Enfin, en fin de compte, le No Man's Land, c'est la douleur. Et mon exploitation, c'est du No Man's Land en permanence. En se promenant, vous allez voir, il y a encore certains endroits, peut-être d'au plus partout, parce que moi, j'ai encore... mon grand-père a mis 20% de la ferme en état, après la guerre. Mon père, 20%. Et moi, j'ai peut-être un peu plus, 30-40%, parce que j'ai les moyens, le matériel un peu plus puissant. Mais il va y en rester pour les générations derrière, quoi. D'accord. Derrière, les jeunes que vous avez vus tout à l'heure auront aussi leur part de remise en état, ou en tout cas d'atténuer les cicatrices de ce terrain-là encore, vous voyez. Donc c'est pas fini, c'est 4-5 générations pour revenir à un aspect visuel et puis agronomique à peu près normal. Par contre, sur la microbiologie, c'est pas du tout ça. Hein. Le sol a été complètement perturbé. Bon, ça c'est sur le plan agronomique. Il faudra longtemps pour le remettre en état. Là justement, on est en train d'arracher les pommes de terre.
Parce que quoi? Parce qu'on retrouve encore des obus,
Si vous voulez, il y a les conséquences directes de la guerre qui sont les obus, les tire-bouchons, les barbelés, enfin toutes ces choses-là.
Ce qu'on appelait les tire-bouchons.
Tire-bouchons, ce sont des piquets que les soldats vissaient dans la terre pour pas faire de bruit.
D'accord.
Donc il y a tout ça dans ce sol-là. Mais c'est pas encore le plus. Si pour les animaux, c'est important. Pour tout ce qui est agronomique, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'en fin de compte, cette terre-là, au 19e siècle, c'était des maraîchers. Même tout avant la guerre, c'était aussi déjà
des terres vignes,
de maraîchage. Beaucoup de vignes, beaucoup de vignerons. Mais en fin de compte, les obus ont complètement perturbé les horizons, comme on appelle. Hein. Les horizons agricoles ont été complètement perturbés. C'est-à-dire que les obus ont remélangé, si vous voulez, la roche-mère en dessous, la craie en dessous, le cran, même, on dit nous, avec les surfaces. Si bien qu'on a des terres... vous voyez, il y a des cailloux partout, alors que Juste avant la guerre 14-18, la terre, c'était...
Il n'y avait pas ça.
Elle n'avait pas ça du tout. Ils travaillaient à la main, ils bêchaient. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas du tout de corps étranger, même pas, je dirais, des mauvaises herbes, quoi. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, d'ailleurs, sur ces territoires-là, en monde rural. Donc, vous voyez, donc, la guerre, elle nous a laissé comme héritage tout ce qu'elle ne veut pas digérer, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire les barbelés, les cartouches, les obus, les éclats d'obus, en fait, tout ça. Tiens, d'ailleurs, là, je vais vous montrer. On a sorti un gros crapouillou, là, d'ailleurs. Et puis, mais pour nous, agriculteurs, c'est pas ça qui est, c'est pas ça qui nous ennuie le plus. Ce qui nous perturbe le plus...
Ah oui, d'accord.
Ce qui nous perturbe le plus, c'est, en fin de compte, tous ces horizons agricoles-là qui ont été perturbés.
Ouais.
Vous voyez, il n'est pas explosé. Il n'a même pas été tiré, celui-là.
C'est un obus, on va dire.
C'est un crapouillot, c'est un mortier. C'est un petit mortier, ça. Vous voyez, c'est avec les ailettes et tout. Vous voyez, on ressort plein de... Enfin, il y en a partout. Il y a encore
des obus. Qu'est-ce que vous en faites, là, après
Là, pour l'instant, c'est un moment qu'il est là.
On met de côté, oui.
Pour l'instant, on les met de côté, puis on attend d'en avoir quelques-uns pour... faire venir les artificiers, les mineurs.
Donc là, on marche en fait sur des cicatrices, quoi.
On va aller un petit peu plus loin et puis vous allez voir. Donc là, par exemple, on est en train d'arracher les pommes de terre.
Ouais.
Il y a un endroit, on peut pas arracher avec les machines tellement il y a de pierres. L'année dernière, on a cassé la machine avec un gros éclat d'obus qui a coincé la chaîne et qui a tordu la chaîne. On a été obligé d'arrêter de travailler. On a mis une journée à réparer la machine. Il y avait un éclat d'obus comme ça, hein, de 40 cm, il a cassé. Là, c'est les pierres. Et vous voyez, ces pierres-là, avant la guerre, ça n'était pas là. Encore, quand on ne tombe pas sur des tire-bouchons ou sur des piquets de fer ou sur des chevaux de frise, c'est bien. Vous savez, j'ai crevé avec le tracteur une paire de fois sur les chevaux de frise. Alors ça, c'est une conséquence de la guerre qui va durer encore des siècles, parce qu'il n'y a plus personne pour ramasser les pierres.
C'était une boucherie effroyable parce que donc le général Nivelle, on ne peut pas exactement dire que c'était un grand stratège sur cette affaire-là. On a récupéré, si on parle juste de avril 17, on a juste récupéré, mais rien en termes de terrain. Quoi. Ça a été complètement fou. Donc il y a aussi un peu cette espèce de désespoir. Quoi. On peut comprendre les mutineries qu'il y a pu y avoir après parce qu'ils sentaient bien qu'ils allaient, ils étaient de la chair à canon, comme on dit. Quoi.
Si vous voulez, ça a été l'année 1917, hein, c'est ce que les historiens et même les gens qui l'ont vécu ont baptisé, baptisé cette année-là, l'année d'angoisse. Quoi.
Ouais.
Parce qu'en fin de compte, tout le monde était angoissé. On s'aperçoit que les soldats eux-mêmes ne croyaient pas vraiment à cette... Parce que chaque régiment envoyait des patrouilles la nuit pour voir l'état de résistance des ennemis au niveau des lignes de défense. Tout ça. Et vous avez presque tous les régiments qui ont participé à l'attaque du 16 avril. Les patrouilles, en revenant la nuit, parce que c'était la nuit hein, qu'ils allaient observer, disaient rien n'est détruit pratiquement. Les barbelés sont pratiquement pas détruits, les mitrailleuses allemandes sont en place. Donc finalement, le simple soldat dans la tranchée, et c'est là où ça pose un problème quand même. Ouais.
C'est que le boulot, on va dire, de sape n'avait pas été fait.
Donc ça n'avait pas été fait. Mais en fin de compte, on s'aperçoit que cette information-là, on a l'impression qu'elle est restée au niveau de la troupe même. De celui qui était dans la tranchée, celui qui risquait sa peau. On a l'impression
qu'eux l'avaient intégré, mais l'état-major n'avait pas intégré.
C'était pas remonté. Quand vous lisez encore des textes de gens qui ont participé vraiment à l'attaque de cela, ils nous disent une heure, deux heures après le début de l'attaque, il fallait arrêter parce que c'était loupé. Quoi.
Bien sûr.
Ils savaient que c'était loupé. Donc il y a eu un entêtement, et c'est ça le drame. C'est qu'il y a eu un entêtement à la fois des politiques et des militaires pour continuer cette attaque qui était prévue depuis 6 mois. Quelque part, on comprend bien que on n'engage pas 6 mois d'énergie, d'argent pour rien. Mais c'est là où on se pose encore la question entre... le fait qu'une guerre coûte cher collectivement, mais est-ce que la vie ne coûte pas, n'a pas de valeur, quoi. En fin de compte, on s'aperçoit que le bilan, c'est que pour tous ceux qui décidaient à l'époque, la vie avait moins de valeur que la guerre, quoi, si vous voulez. Donc là, on se pose quand même des questions.
Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance de voir enfin la relève. rêve que nous attendons sans trêve. Quand avec la nuit, dans le profond silence, on voit quelqu'un qui s'avance, c'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, nos petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on va laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tant de cossus qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se promener, tous ces embusqués feraient mieux de venir dans la tranchée. Défendre leur bien, car nous n'aurons rien, nous autres pauvres puretins. Tous nos camarades sont étendus là pour défendre le bien de ces messieurs-là. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Vous avez voulu la guerre, payez-la de votre peau.
Et on va poursuivre ce voyage donc dans ce département de l'Aisne, toujours à Craonne, le pays de la craie, puisque donc un homme qui était jésuite, qui était le père Courtois, avait retrouvé en 57 avant Jésus-Christ dans les livres de César, je crois que c'est le troisième livre de la Gaule de mémoire, donc c'était Craodunum, donc ça veut dire la montagne de craie. Alors le village initial évidemment n'existe plus, lui aussi il a été pulvérisé, et donc on est à 600 mètres, à mi-pente donc du chemin des Dames, et il y avait une jolie nappe de soleil, voilà, de fin d'après-midi d'automne. Et puis donc les mots, toujours très sensibles, de Noël Janteur. Donc on poursuit ce voyage, cette balade, dans ces hauts de mon amour, sur France Inter, au milieu de ce paysage. Et paysage que vous allez nous raconter, Noël Janteur, pendant que nous grimpons doucement vers le plateau.
On est dans ce qu'on a appelé à l'époque les pièges à fantassins. Sur la face sud du chemin des Dames, du côté de l'Aisne, ce n'est pas la vallée principale qui crée le relief, ce sont les multitudes de petites vallées perpendiculaires, à la fois à la rivière l'Aisne et à la fois au chemin des Dames, qui créent comme des goulets d'étranglement, vous voyez, comme des pièges.
Et là, on est dedans. Là.
Voilà, on est dans un qu'on appelle malgré tout les Bonnes Valles, vous voyez. Ouais. Ce lieu-là, cette petite vallée-là, s'appelle les Bonnes Valles. Et vous voyez, elle se termine en cul-de-sac, sauf qu'elle se termine sur une pente très très raide. Ouais. Avec des fortifications allemandes tout en haut. Donc les Allemands avaient fortifié, vous voyez, ces petites vallées-là, étaient fortifiées, si bien que ça faisait comme une souricière lorsque les fantassins ont attaqué au 16 avril 1917, et même avant, eh bien, c'était impossible pour eux d'escalader les petites terrasses comme ça qui arrivaient sur les plateaux inférieurs.
Et pourtant, on les envoyait là, quoi.
Et pourtant, on les envoyait là. Et systématiquement, les gens se regroupaient dans les vallées. Et là, c'était le carnage parce qu'ils avaient les tirs de mitrailleuses, si vous voulez, de face et de côté. Oh là là. Donc, ils se trouvaient dans un croisillon de mitrailleuses qui, à dire de certains témoignages d'anciens combattants, j'ai certains combattants qui me disaient mais tu sais, chez toi, il y avait des talus de mort parce que tout le monde tombait pratiquement à la même place. Il y avait des talus de mort à certains endroits. On me disait, quand on arrivait derrière des talus de mort, on se mettait à l'abri derrière les corps des copains. Et je crois que les mutineries, c'est l'échec, mais c'est aussi le fait que l'avenir était complètement bouché, complètement aussi encore plus dramatique, puisque quand vous affrontez des épreuves que vous ne connaissez pas, c'est votre instinct qui fait... Là, ils allaient de nouveau affronter des épreuves de l'hiver qu'ils connaissaient très bien. Puisqu'en 16, ici, sur le chemin des Dames, certains ont essayé de se faire geler les pieds. Ils en avaient tellement marre, les jeunes. Alors là aussi, ça pose des problèmes. Parce que vous imaginez, à 20 ans, ils savaient, quand on se faisait geler les pieds, la conséquence, c'était on se faisait couper les pieds. Hein. Donc quand vous avez 20 ans et puis que vous allez jusqu'à l'audace, voilà, jusqu'au choix pour quitter le front voyez pas la souffrance qu'on a dû leur faire subir pour arriver à cela. Vous imaginez, vous?
Oui.
Moi, des fois, j'essaie d'imaginer, de dire, on va se faire geler les pieds.
Parce que ce sera toujours mieux que ce qu'on a vécu.
Toujours, voilà, et on va
vivre.
Vous imaginez un peu? On ne peut pas imaginer. Non. D'ailleurs, même eux, moi j'en ai rencontré un de Zouave, il était au 7e Zouave, je crois. Et tous d'ailleurs, hein, tous les anciens combattants. Il arrive un moment où la seule communication qu'ils ont avec nous et le seul langage qu'ils ont, ce sont les larmes. Ce sont les larmes. Il arrive un moment où ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus dire.
Alors ce lieu est quand même assez superbe. Hein. C'est vrai que cette fameuse petite souricière, c'est très joli, là, en temps de paix. Ça devait être complètement éclaté. Quoi. Il restait encore des arbres ici ou pas?
Ben non, voilà, c'était rien, lunaire. Hein. C'était... Là, vous voyez, on voyait un homme à 800 mètres, un kilomètre. Personne ne pouvait bouger sur un horizon d'un kilomètre, hein, parce que dès l'instant où l'un ou d'un côté ou de l'autre, hein, où ça bougeait, c'est le mec qui risquait sa peau à chaque fois. Quoi.
Et là, on imagine des corps qui sont là-dessous.
Oui, parce que regardez, là, cet endroit-là, justement, c'est... Vous voyez, c'est encore des trous d'obus partout. La forme des trous d'obus qui sont à peine rebouchés, vous voyez. Vous voyez, on peut redescendre là, vous allez voir, c'est joli. Là, vous voyez, on fait du foin, on fait des prairies. Bon, c'est des prairies, hein. C'est la plupart de mon exploitation. J'ai 35 hectares de prairies sur 90 hectares. Donc, vous voyez, mais ces 35 hectares de prairies-là sont pratiquement restés avec toutes les derniers obus tombés. Vous voyez, il y a des trous d'obus quand même assez marqués. Est-ce que c'est à moi effacer déjà ces traces-là ou c'est au plus jeune derrière moi? Vous voyez, c'est même pas un problème de capacité de faire. C'est vraiment presque sentimental pour moi.
Je comprends.
Moi, je ne sais pas si j'arriverai à aimer cet endroit-là. C'est un lieu magique ici. Hein. Oui. C'est un lieu. C'est beau, quoi. Vous voyez,
c'est beau.
On est. C'est particulier, quoi.
C'est beau, c'est émouvant.
Vous avez les laines dans le fond là-bas, vous avez vallée de laine, vous voyez.
Vous ramassez une poignée de foin, hop, et puis vous la reniflez.
Là, c'est parce que vous voyez, le problème, c'est que on est tellement peu à travailler maintenant, c'est que ce foin-là devrait être pressé depuis 3 jours.
D'accord.
Et puis depuis 3 jours, on est dans les oignons, on est dans les carottes, on est dans les pommes de terre. Si bien que, c'est tout. Comme ce n'était pas du foin, vous voyez, en quantité, c'était la deuxième coupe. Hein. En fin de compte, ça, c'est ce que la nature nous a donné en plus de ce qu'on aurait dû avoir.
C'est le regain.
C'est le regain, parfait. Je n'osais pas le dire. C'est le regain, mais finalement, le regain, on le réussit, on ne le réussit pas. Il ne faut pas trop ramasser. Mais je ne l'ai pas foutu. Hein. Je vais donner encore vert. Demain, je vais essayer demain de le presser. Quoi. Radisser et presser. Le parfum du foin. Dimanche soir, j'étais avec des gens dans la ferme, là, on discutait, et sur le coup de 6h30, 7h du soir, vous savez, quand l'humidité de la nuit arrive, elle lève les odeurs en même temps. On ne sentait pas du tout le foin dans l'après-midi, il faisait chaud, il faisait bon, mais on ne le sentait pas. Et d'un seul coup, en un quart d'heure, 20 minutes, la température a changé, le soleil s'est couché. La terre a recraché, quoi, l'humidité a et là, elle a lâché ses parfums de la journée. Et à la ferme, tiens, un petit peu, ça, on le sent déjà là. Vous voyez, l'humidité remonte.
Sûr,
on sentait
sûr.
Rien, vous voyez, il y a un quart d'heure, on sentait rien.
Mais
vous voyez, 7h moins le quart, je disais autour de 7h.
Ouais,
à la ferme, on sentait comme je venais de faucher le foin. Et le parfum du foin descend de la ferme. Le gars me dit, mais qu'est-ce que ça sent bon aussi? Mais je dis, tu vois, c'est le foin, quoi.
C'est...
Vous voyez, même dans la journée, vous avez des périodes. Vous voyez comment on le sent maintenant,
on le
sentait pas tout à l'heure.
Non.
J'aurais pas pu le dire plus tôt, vous voyez. C'est...
Et là, on peut se poser la question, Noël. Vous êtes passé au bio, évidemment, par conviction. Mais peut-être que vous vous êtes dit inconsciemment, ce lieu-là a été tellement martyrisé que vous ne vouliez peut-être pas en rajouter.
Vous avez tout compris. Vous avez tout compris, finalement. Vous savez, elle a tellement souffert, cette terre-là, que... Pour faire du bio maintenant, il faut avoir une certaine dose d'inconscience ou un excès de passion pour la terre. Voilà. Et puis peut-être en même temps un désintérêt pour l'argent.
Oui.
Voilà, je pense que c'est ça. C'est... Ce soir, on a les ombres, on a cette belle lumière-là, le soleil couchant, on a la beauté des arbres maintenant qui vont entrer dans l'automne. Ils commencent, vous voyez, ça commence. Parfois, vous avez les parfums, vous voyez, les parfums de l'acacia, de la fleur d'acacia, le parfum de l'aubépine au début. Les premiers parfums, c'est les parfums d'aubépine que vous avez. D'accord, lorsque vous vivez toutes vos saisons ici, vous avez une succession de satisfactions comme ça. C'est... Par contre, vous voyez, vous avez des arbres qui meurent là. Mais je pense que certains, parce qu'ils sont sur des atmosphères terrestres, enfin de terre, encore marquées par les gaz. Ouais. Vous voyez. Et j'ai un vieux, moi ici, un vieux qui m'a dit à un certain endroit du terroir, il m'a dit, tu sais là, c'est pas la peine que tu plantes des pêchers, c'est pas la peine que tu plantes des abricotiers. Donc on a aussi cet héritage-là de prudence, quoi, que les vieux nous ont transmis. Et puis, bon, c'est à nous aussi à découvrir certaines choses en même temps. Hein, mais je pense que le bon sens fait qu'on évite beaucoup d'erreurs. Quand vous êtes en production plus ou moins intensive, conventionnelle, il y a toujours une machine qui vous sépare du sol. Ouais. Voyez. Et j'ai déjà dit à des jeunes agriculteurs, combien de fois tu es descendu de ton tracteur pour toucher la terre. Et des fois, ils me regardent avec surprise, ils disent, ah ben, t'as raison. Et donc, certains ont le réflexe de dire... Ah ben oui, c'est vrai, on est paysan, quoi. Faut la toucher de temps en temps, la terre. Faut la sentir de temps en temps.
Alors là, c'est un lieu aujourd'hui de silence. On a peine imaginé le fracas aussi qu'il y a dû y avoir. Bien sûr qu'il y avait des moments de calme, mais quand ça tirait, ça devait être monstrueux, quoi.
Il y a un grand-père, enfin, il était grand-père quand il m'a raconté, bien sûr, c'était un jeune soldat quand il était là, à ce moment-là. Il me disait, tu sais, le 16 avril, 16, 17, 18 avril, on a sorti des fois... Il y a des gars qui ont été enterrés trois fois vivants dans la journée. Oh là. Vous imaginez. Et mais comment un homme de 20 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, peu importe, même encore nous maintenant qui sommes plus trop jeunes, comment voulez-vous qu'on résiste, hein? Comment voulez-vous qu'ils aient résisté à telle inquiétude, telle souffrance, quoi? Être enterré trois fois vivant. C'est les copains qui les sortent. Entendre les plaintes des copains. D'ailleurs, dans beaucoup de textes d'hommes
ça ressort beaucoup.
Je dis, mais la chose la plus horrible pendant la guerre, c'est d'entendre la plainte des hommes. Quoi. Ouais. La plainte des hommes qui vont mourir, qui mettent des fois 2-3 jours à mourir. Mais on s'imagine pas.
On marche sur des vagues.
Oui, exactement. Tiens, j'ai pas pensé à ça. C'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. C'est une succession de trous d'obus, vous voyez, qui complique le travail ici.
Ah bah oui.
C'est aussi un héritage, quoi. Ouais. Même s'il est triste, même s'il est violent, même. Je sais pas si.
Vous avez pas envie de niveler nivelles, quoi. C'est juste dire.
Oui, oui. J'aurais aimé ne pas avoir ce travail-là à faire.
Oui,
voilà, Mais voyez, là, par exemple, là, vous avez encore une multitude. Je suis sûr qu'il y a des corps encore un peu partout, là. Il y a 120 000 disparus sur le chemin des dames, quand même. Hein. Ah. 120 000 disparus, c'est pas rien. De notre côté, hein. Vous savez, la Terre, elle a digéré tout ce qui était humain.
Oui.
Et ce qu'elle vous laisse, ce qu'elle nous laisse, c'est tout ce qu'elle ne veut pas, quoi, qu'elle ne peut pas digérer. Oui, ce sont des vieux fusils. Ce sont des vieux fusils, ce sont des tire-bouchons, ce sont des... Tous les corps étrangers, quoi. Tout ce qui est corps qu'on appelle corps étranger. C'est-à-dire ce que la Terre ne veut pas. Quoi. C'est ce qui représente la folie des hommes, quoi. Ici, c'est plus qu'une nécropole, si vous voulez. C'est plus que... Une nécropole, c'est matérialisé par certaines choses, vous voyez. Par des croix, par des... Ici, c'est plus que ça. Il y a un mystère, c'est... Là, on serait surpris, peut-être, vous voyez, si par une forme de miracle ou... les hommes se levaient là. Et des fois, j'imagine un peu des choses comme ça. Je me dis, mais on serait plus seul, quoi. On aurait des copains. Hein. Peut-être que on gagnerait une forme de sagesse qu'on n'a pas réussi à gagner après deux guerres mondiales, quoi. En fin de compte, c'est ça le drame. C'est cette chaîne de douleur là qu'on n'arrive pas à casser, quoi. C'est les mamans, c'est les papas, c'est les enfants, c'est les veuves. Ça a été toute une chaîne. C'est pas le bruit du canon qui est le plus terrible, en fin de compte. C'est ce que le canon a causé après, quoi. Vous voyez ? C'est ça qui est terrible, quoi. Et c'est ça qu'on oublie. D'ailleurs, quand vous lisez José María Remarque, à l'Ouest, rien de nouveau, il se pose la question, il dit, mais on nous a... Alors, c'est un Allemand qui a fait la guerre, bon, et qui était, c'est un intellectuel qui avait fait des études, qui avait une connaissance, qui était intellectuellement très, très évolué. Et il se pose la question, justement, de cette culture-là des sociétés de l'époque. Se dire, mais qu'est-ce qu'on va dire à nos professeurs quand on va revenir, alors qu'on nous a appris le respect de l'autre, la vie, de construire les choses, d'être dans le positif, et que là, on vient de passer 4 ans, 5 ans dans un négatif qui n'a pas de fond, quoi. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va dire à nos professeurs qui nous ont appris à être positifs, qu'est-ce qu'on va leur dire en revenant de cette expérience-là? Donc, si on s'était concentré un petit peu plus sur, justement, la réaction de ces hommes-là, comme moi, j'ai rencontré énormément d'anciens combattants qui n'allaient jamais au monument aux morts. Est-ce que, dans tous les conflits, il n'y a pas une partie de la société qui a un bénéfice sur ces conflits-là, quoi?
Si.
Pas seulement les industriels, je dirais.
Non.
Pas seulement les industriels.
Psychologique.
Psychologique, voilà. Social. Disant. Et c'est pour ça que quand on me parle de devoir par rapport à cette chose-là, moi, ça me révolte.
Ouais.
Je parle toujours de travail de mémoire, moi. Pas devoir de mémoire. Devoir de mémoire, pour moi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. À la limite, les jeunes ont. Je l'ai déjà dit, ça. À la limite, les jeunes ont un droit de savoir.
Ouais.
Vous voyez. Mais personne n'a un devoir de mémoire. Ouais. C'est compliqué de vivre quand on réfléchit. C'est beaucoup plus simple de ne pas réfléchir.
Bonsoir, m'amour. Bonsoir, ma fleur. Bonsoir tout mon âme, ô toi qui tiens tout mon bonheur dans ton regard de femme, de ta beauté, de ton amour, si ma route est fleurie, je veux te jurer, ma jolie, de t'aimer.
Alors là, Noël, on est gâté parce qu'on est dans cet automne. Et c'est très beau. On a le soir qui est calme, là, on a pas de vent. C'est encore une petite douceur. Hein. Voilà. Et là, on se retourne sur l'Aisne, sur la vallée de l'Aisne.
Oui.
L'autre côté, on a l'An.
Ben c'est aussi pour moi une forme de récompense d'être revenu à la Terre, quoi.
Ouais.
Si vous voulez, c'est... on n'a pas de vacances, on n'a pas beaucoup de week-ends. Nous, ces mots-là, on ne les connaît pas trop. Mais par contre, on a des moments de bonheur comme ça. Des moments de quiétude, quoi. Des moments de... Mais c'est des moments qui... C'est des... Enfin... Ça, comment dire, pour simplifier, ça n'a pas de dimension humaine. Ça touche vraiment l'émotion, ça touche... c'est un domaine, c'est un espace qui n'a pas de limite, quoi, la beauté. C'est la beauté de la nature, ça n'a pas de limite, quoi. D'abord, on n'apprécie pas, mais ça vous envahit, quoi, quelque part. Et puis, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. En même temps, vous l'avez, puis vous ne l'avez pas. C'est ça qui est formidable. C'est que demain, ça sera différent, en plus. Demain, ça sera différent. Le soleil, il se couchera peut-être plus comme ça, on n'aura plus les mêmes ombres, on aura eu une journée peut-être plus difficile, donc on sera moins disposé. Donc c'est ça qui est super. Hein. Alors vous allez me dire, c'est des réactions naïves peut-être, mais c'est plus le cœur que la raison qui parle. Hein.
Merci à Noël Janteur, donc à Craon, à Marc Perron, à Maxime Le Forestier, à Tristan Gratalon qui a mixé ce reportage, à Christophe Imbert, parce que toutes les musiques, toutes les couleurs, et ben c'est Christophe Imbert, à Stéphane Combe également, à Anne Gouzon donc, qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Je vous signale que l'Atelier du Mon Petit Loup, donc demain, ben, je vous présenterai deux albums là aussi donc consacrés à cette guerre. Je vous donne rendez-vous demain. Alors, rendez-vous demain. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi, dans l'agora de Radio France. Donc venez parce que c'est en public. Et oui, maintenant, cette maison est la vôtre, donc elle est ouverte au public. Et donc venez, c'est au 2 Mon Amour, à 14h. Donc nous vous attendons dans l'agora de Radio France. Et puis, vous pouvez faire aussi un tour du côté du salon de Marjolaine, puisqu'on parlait du bio avec Noël Janteur. Et bien, c'est le salon Marjolaine aussi à Vincennes. C'est aussi un très grand rituel.